Bonjour à tous, c'est l'heure de notre deuxième émission spéciale Correspondance présentée par François Malabave.
Bonjour François. Bonjour Meïa, bonjour à tous. Et oui, deuxième émission pour cette 15e édition des Correspondances de Manosque, Correspondance La Poste, avec plusieurs invités. Nous parlerons des siestes littéraires avec Bastien Lallemand, JP Nataf et Maëva Lebert. Nous attendons également l'écrivain François Maton qui a été en résidence à Manosque, une résidence qui s'achève. Et puis, nous parlerons de l'Imaginographe, un théâtre de rue graphique et interactif qui est monté notamment par la MJC de Manosque avec Anne Maldan que nous attendons dans un instant dans nos studios. Et on commence tout de suite avec le programme de la journée. Hier, on démarrait les correspondances avec une très belle soirée consacrée à Albert Camus. Et puis, je vous propose eh bien, tout simplement d'écouter le directeur des correspondances, Olivier Chaudançon, nous parler de cette deuxième journée des correspondances.
Olivier Chaudançon, la 15e édition des correspondances est entrée dans le vif du sujet.
Absolument. Et c'est vrai que dès ce matin, il se passe des choses avec François Beaune, par exemple, un auteur qu'on connaît bien aux correspondances, qui vient nous parler de ses histoires vraies, puis Émilie Frèche, tous deux reçus dans le cadre des apéros littéraires. Et puis une nouveauté cette année, Battle littéraire. Donc là, c'est quelque chose d'assez curieux. On demande à des jeunes de préparer une intervention de 2-3 minutes pour donner envie de lire un livre, pour convaincre que ce livre est merveilleux. Voilà, donc ils vont monter sur scène, tour à tour défendre un livre, et puis un jury dira lequel d'entre eux a été le plus convaincant pour transmettre le désir de découvrir un livre. Autre rendez-vous qui n'est non pas dans des habitudes, mais un début d'habitude, puisqu'on a démarré l'année dernière, ce sont les siestes littéraires autour de Bastien Lallemand, qui réunit des amis musiciens cette année, JP Nataf, Claire Diterzi, Maëva Lebert, et puis des auteurs du festival qui viendront lire. Donc écoutez des textes allongés dans la pénombre, des textes, des chansons, et tout ça se succède et est en résonance, en correspondance même on pourrait dire. L'après-midi, une rencontre avec Agnès de Sarthe sur sa relation au livre, à la lecture, ce qui s'est passé pour elle dans son adolescence et comment elle est rentrée dans la lecture et se faisant dans la littérature. Une rencontre autour du roman graphique, Hugues Barthes, puisque chaque année on a à cœur d'ouvrir aussi la littérature au roman graphique, qui de mon point de vue en fait pleinement partie. À 18h, Émilie Frèche qui a eu le prix Orange du livre pour un ouvrage merveilleux, je vous incite à le découvrir. Et puis Ingrid Taubois, qui est en résidence actuellement à La Marelle, Friche Belle de Mai à Marseille, qui viendra pour son travail mené dans le cadre de Cuisine en Friche, donc un travail autour de la nourriture. La soirée, poétique et musicale, puisque Charlotte Rampling et Sonia Wider-Atherton nous feront entendre la poésie de Sylvia Plath. Dans une soirée que, d'ailleurs, les deux artistes ont un peu modifiée par rapport à ce qu'on donnait dans le programme, elles se sont vraiment concentrées sur les poésies de Sylvia Plath, estimant qu'il y avait une magnifique résonance avec la musique de Benjamin Britten. Donc on aura une soirée très très mélodieuse, et la mélodie se poursuivra en fin de soirée, puisque là on reçoit deux habitués des correspondances, Arnaud Catherine, qui fait partie de l'équipe d'ailleurs, c'est un peu une programmation familiale dans ce cas, pour son dernier livre, Je ne retrouve personne, et il sera accompagné musicalement par Florent Marchais. C'est un tandem qui s'est formé à Manosque il y a 10 ans, ils se sont rencontrés, et depuis ils montrent régulièrement des projets ensemble, donc ça nous faisait particulièrement plaisir, en clin d'œil, de montrer qu'ils étaient toujours liés artistiquement entre texte et musique.
Je vous explique. Retour en plateau, merci Olivier Chaudançon, et j'ai le plaisir d'accueillir nos amis siestards, comme nous les appelons ici, autrement dit Bastien Lallemand, JP Nataf et Maëva Lebert. Bonjour à tous les trois, ravis de vous retrouver. Quand vous êtes ici à Manosque, vous êtes rayonnant, Bastien Lallemand. On vous a déjà vu dans une explication de vos lectures, notamment Jean Giono, la première année. La deuxième année, avec ce concept un peu étonnant des siestes littéraires et musicales, dont on va parler en complicité avec Maëva Lebert, avec JP Nataf et avec Albin de la Simone. Vous vous sentez bien dans les correspondances ?
Ouais, j'adore ce festival, j'adore le lieu. Et puis en fait, j'avais l'impression, avant de venir la première fois, donc il y a 2 ans, que je le connaissais déjà par la lecture de Giono. Voilà, j'en ai lu beaucoup. Et du coup, cette ville m'attirait beaucoup. Et à chaque fois que j'y reviens, je me replonge dans cette lecture, dans ces récits. Et puis il fait beau chez vous.
C'est vrai, hein, vous avez remarqué. JP, vous, c'est un personnage qu'on connaît depuis déjà quelques années par un passé musical, évidemment, mais en même temps qui s'intéresse beaucoup à la littérature, beaucoup à l'écriture, et avec un côté acoustique maintenant plus marqué.
Alors moi, là, il y a une fausse idée, c'est que non, je suis pas du tout féru de littérature. Il y a certains livres que j'ai vénéré, adoré, tout ça, mais je suis pas du tout sur l'actualité. Je connais très peu la littérature contemporaine, justement. Donc, je suis très content d'être dans les bagages de Bastien. En fait, ce qui est bien avec la sieste, c'est que c'est, mais comme tout ce qu'on essaye un peu de faire depuis 2-3 ans avec la crise du 10, tout ça, de décloisonner parce que finalement, on peut plus exactement fonctionner comme il y a 15 ans. C'est plus possible, c'est plus les mêmes circuits, les gens ont pas d'argent, tout ça. Donc, c'est vrai que depuis qu'on fait les siestes, on s'est rendu compte que ça nous permettait de rentrer dans des tas d'endroits où on rentrait pas avant. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de sono, parce que c'est très facile de trouver un peu de place pour que les gens s'allongent sur des coussins, et puis nous, de trouver de la place pour 2-3 guitares et un violoncelle. Donc du coup, c'est la curiosité, moi, qui fait que j'ai suivi ici. Je ne pense pas que j'étais un bon client pour Manosque. Je ne pense pas qu'Olivier aurait dit « Ah, on va inviter JP Nataf parce qu'il a un lien avec... Il parle souvent de tel auteur ou je ne sais pas quoi. » C'est plutôt, je suis un peu dans les bagages de Bastien, et arrivant là, l'année dernière, j'ai fait des rencontres super avec Mathias Sénard, Gwenaël Aubry, enfin voilà, j'ai découvert des gens, j'ai découvert justement des auteurs un peu contemporains que je prends pas forcément le temps de découvrir, parce que je reviens un peu toujours à mes obsessions quand j'ai le temps de lire.
En même temps, quand vous écrivez des chansons, il y a quand même
j'ai pas dit que j'aimais pas la langue ni les mots.
Côté texte, non,
je parlais de la littérature, c'est autre chose.
Mais voilà, on dit des choses, et tant qu'à faire, on dit des choses intelligentes, et c'est votre cas, donc ça tombe bien quand même, même si vous n'êtes pas
écrivain. C'est pour ça que j'ai réussi à me faire accepter un petit peu dans ce chaudron.
Maëva Lebert, qui est à côté, vous êtes musicienne, vous jouez du violoncelle et vous vous greffez, entre guillemets, dans ces siestes musicales avec votre voix et votre violoncelle.
Voilà, c'est ça, je me greffe, enfin je joue, j'accompagne. En fait, avec JP, on joue ensemble depuis longtemps. Bastien, du coup, on se connaît par les siestes depuis, je dirais, 2 ans. Avec Albin aussi, je joue. Donc, on connaît un peu les chansons des uns des autres. Et voilà.
Il y a un système là, je suis là, de cooptation entre les artistes. Artistes cooptent pour... on va se faire une sieste ensemble, de manière très, très honnête, évidemment. C'est une sieste littéraire, quand même.
Voilà, c'est ça. Et à chaque fois, ça circule. Ça peut se faire avec des gens différents, des musiciens différents, des...
Voilà. Bastien, le créateur, le fondateur de ces siestes littéraires, c'est un concept qui fonctionne bien désormais.
Il y en a beaucoup, beaucoup, et on en fait pas mal. Cette semaine, on va en faire 6 avec JP.
7 en 7 jours.
Une par jour, bravo.
Mais les gens ont de plus en plus besoin de dormir.
Oui, oui, très bien. on va rappeler le principe d'ailleurs.
Voilà, rappeler le principe, évidemment, ça se passe à l'heure de la sieste autant que possible, c'est-à-dire vers 15h, au moment où on a tous envie d'aller plonger dans un autre monde. Ça se passe souvent le dimanche, notamment à Paris, où on en fait une par mois, et puis après dans des festivals à droite et à gauche. Et le principe est tout simple, c'est de s'associer quelques musiciens, quelquefois quelques auteurs, et de proposer à un public endormi une petite heure et quart d'enchaînement, à la fois de chansons, de textes, le tout se tuilant, le tout se mélangeant, avec comme seul règle que le public n'applaudisse pas pour ne pas réveiller ou rompre ce moment d'endormissement, et sans se préoccuper que les gens dorment profondément, ne dorment pas ou soient dans un demi-sommeil, juste proposer un fond musical et littéraire à leur rêverie. Et puis voilà, c'est un moment pour nous musiciens aussi, à chaque fois c'est des musiciens différents, de reformuler nos morceaux, de les faire d'une manière différente avec les musiciens qui sont là, et de donner à entendre des histoires, des récits ou juste des musiques. Voilà, et puis et c'est quelque chose qui fonctionne énormément à l'économie de travail en amont, c'est-à-dire qu'on se rencontre une heure ou 2 heures avant la sieste, afin de laisser les choses très ouvertes, les musiques, tous les possibles de ces musiques, de ces reformulations.
Ça se prépare comme un repas un peu. C'est un peu comme si on disait à des gens, il y a une table ouverte et des gens arrivent avec des victuailles. Après, on a une heure pour dire qu'est-ce qu'on
c'est
va faire.
C'est exactement voilà. ça. Voilà.
Et vous faites votre programme après au fur et à mesure. Au niveau des orchestrations, comment ça se passe? Vous avez, par exemple, Albin qui jouait l'année dernière sur des claviers, qui doit jouer de temps en temps aussi encore avec vous. Et sur les orchestrations, vous travaillez ensemble pour justement ces deux instruments, une guitare acoustique ou deux guitares acoustiques?
On ne travaille pas vraiment.
Non, on travaille pas.
Vous le faites au feeling, quoi.
Bah, Albin, Bastien et moi, on se pratique depuis maintenant 7-8 ans. On a fait d'autres projets ensemble. Donc on connaît les répertoires sont assez c'est assez poreux quoi, on sait tous jouer au moins une dizaine de chansons les uns des autres. Donc ça fait une base et puis on a des habitudes, on trouve très vite comment être complémentaire, c'est comme le noyau d'une équipe de foot par exemple.
On a
des automatismes ensemble. Ouais. On commence à en avoir avec Maëva qui est maintenant là depuis presque 2 ans. Donc en fait il y a un noyau, donc quand des gens arrivent même s'ils viennent de très loin et qu'ils sont très étrangers même à notre culture musicale, on a reçu des gens qui sont très 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 différents ou dont on connaît pas bien les disques. En fait, eux très vite sont pris un peu en charge parce qu'on amène une couleur et puis du coup je pense que c'est assez agréable pour eux de se sentir que voilà qu'il y a pas besoin on a rien à inventer en fait, c'est très simple. Et puis quelquefois on laisse aussi l'invité se débrouiller tout seul parce que son univers est très singulier, s'y prête et on trouve que c'est plus intéressant que de jouer pour jouer quoi. Il y a l'art de la sieste tel qu'on le conçoit, c'est aussi de savoir se mettre en retrait, ne pas jouer, écouter. Se reposer soi-même entre tout à coup pendant 2-3 morceaux, on peut ne pas jouer.
L'instrumentarium est très varié en fait, parce qu'il n'y a pas seulement une guitare ou un violoncelle ou un clavier, c'est aussi du fait que ça soit acoustique, complètement acoustique, il n'y a aucun micro pour les voix. Juste la voix, c'est un laboratoire des voix, on écoute la voix et la musique doit se faire en fonction de cette voix. Si on a tout d'un coup une chanteuse ou un chanteur qui chante d'une façon très, très basse, alors nous, instrumentistes, autant qu'on est, on doit s'adapter, faire le mix en fonction de cette voix, de ce filet de voix ou de cette voix plus forte, etc. Et l'instrumentarium, il varie. C'est-à-dire qu'après, c'est tellement, y a tellement peu d'amplification. Enfin, il n'y a pas d'amplification. Le moindre bruit, on peut frotter un jean.
Il y a une amplification, mais parce qu'il y a des instruments électriques. Ce n'est pas qu'acoustique.
Très faible. Mais je confirme tout ce que vous dites, puisque j'ai eu la chance de faire la sieste avec vous, messieurs, dames, l'année dernière, dans un moment un petit peu particulier, avec également des personnes invitées pour les correspondances, des écrivains, là, cette fois-ci. Confirmés et qui viennent et qui participent et qui écrivent des textes. Je me souviens de Simonetta Greggio, par exemple, qui a écrit un texte qui était très très puissant sur l'histoire de son père, très émouvant en même temps. Simonetta était très émue à la fin de la lecture de ce texte qu'elle a écrit spécialement
pour votre
sieste. Et je suppose que chez vous aussi, ça crée des émotions particulières. C'est cette espèce de connivence que vous avez, vous, en tant que musicien, mais qui rejaillit, qui est contagieuse avec les écrivains invités.
Nous-mêmes, il y a une surprise déjà, c'est-à-dire qu'on est en même temps spectateur dans une sieste, contrairement quand l'un de nous fait un concert, en général, il monte sur scène, il prend la parole pendant une heure et demie. Il se trouve qu'on chante 2-3 chansons chacun, mais au milieu d'un flot de choses qui viennent d'ailleurs, des choses qu'on connaît, des choses qu'on ne connaît pas du tout. Donc dans le cas des textes, c'est vrai que c'est un peu une surprise.
Enfin, et d'où l'intérêt de ne jamais préparer, en fait, voilà. Pour avoir les surprises. Tout d'un coup, un auteur peut prendre la parole et puis nous, on a une guitare qui est disponible.
Vous allez vous adapter.
Et on va commencer à lui faire un fond musical éventuellement.
Oui,
et
tout
cela va concourir éventuellement à une création sur le moment, in situ, cette sieste.
Et puis moi, je pense qu'aussi le contexte fait qu'on écoute les choses un peu différemment aussi. Comme c'est pas amplifié, comme il y a cette espèce de torpeur, on est très à l'écoute. Moi, je me rappelle de David Lafort, qui est un de nos autres compagnon de sieste à Paris surtout, parce qu'on n'a pas encore réussi à l'emmener, mais qui un jour nous a chanté À la Claire Fontaine, qui est la chanson la plus communément dans la conscience des gens, dans l'inconscient, des souvenirs, tout ça, une version a cappella de La Claire Fontaine. On était tous les larmes aux yeux, tellement c'était juste, c'était le moment parfait, tout le monde était un peu assoupi comme ça, et voilà, c'était juste très très magique. Ça ne s'écrit pas, ça. On ne peut pas dire deux heures avant, tiens, je vais faire La Claire Fontaine et ce sera très émouvant.
Et je vais vous faire pleurer, alors
voilà.
Là, encore moins.
Ouais, ouais.
David Lafort, qu'on espère voir un jour aux correspondances, parce que c'est un personnage aussi très attachant.
Bah, surtout qu'il a déjà le short pour venir ici. Il est toujours en short, donc je pense qu'il pourrait venir ici.
JP, sans short cette fois-ci, vous avez l'occasion aussi, à part les siestes qui vous font un petit peu travailler, il ne faut pas l'oublier, de fréquenter ce festival, d'aller un petit peu à la rencontre, comme vous l'avez fait l'année dernière.
Alors l'année dernière, on a quand même réussi à pas mal voir de choses. En même temps, on est arrivé à 5, donc on était assez costaud. Là, j'ai l'impression qu'on a plus de travail cette année parce qu'effectivement, on n'a pas trop communiqué avec les auteurs au préalable. Il y a des chanteurs, mais on les connaît pas forcément très très bien et tout. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir un peu moins de temps pour itinérer. Mais bon, le soir, une fois la sieste faite, par contre, je pense que voilà, ce soir on a un programme, demain aussi, on a plein de choses à voir.
Ça revigore la sieste, hein. Ouais. Donc vous êtes d'attaque après pour les soirées. Vous allez également accueillir Claire Diterzy demain, c'est ça ?
Dès aujourd'hui,
elle est là, Claire.
Dès tout à l'heure, elle vient.
On l'entend arriver.
Claire, c'est la quatrième quatrième musicienne. Et elle sera là aujourd'hui et demain. Et samedi, elle repart. Par contre, Joseph Danvers se joindra à nous. Voilà, un autre chanteur.
Que du beau monde et que des personnes qu'on diffuse sur notre antenne avec beaucoup de gourmandise. On espère avoir Claire Diterzy demain en direct sur notre plateau pour parler de sa manière d'appréhender la musique et les textes à côté. Maëva Lebert, vous êtes musicienne et vous jouez régulièrement donc avec ces messieurs, avec votre violoncelle en acoustique ou vous traficotez un peu les sons de temps en temps?
Là, dans les siestes en acoustique...
Et systématiquement.
Voilà, parce que c'est le principe. Et même je joue sur trois crins, parce que même en son plein, le violoncelle, là, ça couvrirait les voix, les guitares, tout. Donc c'est vraiment très, très, très doux. Ce qui n'empêche pas de triturer le son quand même, même quand on joue en acoustique d'ailleurs. Et puis sinon, après dans les tournées, en concert, c'est forcément amplifié. Voilà.
Elle envoie du bois. Donc. Je peux vous dire.
Et elle a de l'âme, hein, pour parler violoncelle. Je ne vais pas vous demander le programme de la sieste de cet après-midi, donc si j'ai bien compris.
On sera bien en peine de vous le donner.
Il y a Arnaud Catherine qui se joint à nous, François Beaune,
oui.
Et puis qui va venir là dans quelques minutes.
Et il y a également François Maton.
Et voilà, François Maton.
On fait le club des François tous les trois, donc voilà. on a tout un club un peu particulier. Donc vous vous inscrivez aussi dans ce festival et c'est une bonne chose. Vous savez qu'on a un projet, Bastien, j'espère qu'on le réalisera l'année prochaine si on repique dans ce système des siestes littéraires, c'est de diffuser une sieste littéraire en direct sur notre antenne. Ce serait pas mal, ça. Hein,
ce serait pas mal, afin que les gens chez eux puissent faire eux-mêmes la sieste.
S'installer tranquillement et puis s'imaginer. Voilà. Parce qu'il y a un problème dans les siestes littéraires, vous le savez, je ne peux pas ne pas en parler, c'est le manque de place. Il y a à peine 80-90 personnes.
C'est ça, 80 jusqu'à 100 peut-être, si on se sert bien. Il faudrait des lits superposés. Peut-être.
Alors là, il va falloir investir. Et c'est dommage parce que c'est dans une petite salle. Et évidemment, on ne peut pas faire ça dans une grande salle, puisque après, ça veut dire que le principe même est changé. Voilà. Et donc, il y a 80
chansons. L'idée,
c'est de
jouer comme dans notre salon. Donc, on aurait du mal à mettre plus de 80 personnes dans notre salon.
On a été sur des jauges un tout petit peu plus larges à Montréal, par exemple.
À Montréal, on était un peu au-delà de 100 personnes. Mais... Ouais.
Parce qu'ils voient grand, les Québécois, hein, tout le temps.
Ils sont plus grands aussi. Donc...
Il faut les étendre. On espère faire une diffusion d'une sieste littéraire un jour. Ce serait pas
avec
mal,
plaisir.
Ça, effectivement, d'avoir sur notre réseau des gens qui s'installent et puis de penser à se dire, tiens, il y a des gens chez eux qui sont installés et qui écoutent et qui sont... comme s'ils étaient implantés dans ces siestes littéraires. On va vous remercier tous les trois d'être avec nous, et puis on va vous souhaiter évidemment une bonne sieste, deux bonnes siestes pendant les correspondances, et on vous retrouve au long des correspondances. On va peut-être se quitter en écoutant Bastien Lallemand, mais cette fois-ci pas en sieste. Et c'est JP qui a choisi ce morceau, c'est bien ça ?
Non, j'en avais choisi un, mais vous ne l'aviez pas. Donc on va en écouter un plus ancien, mais ça me fait plaisir aussi. D'ailleurs.
Un morceau qui a 15 ans, oui, maintenant.
Et qui s'appelle
un ado.
Auxerre.
Merci, à très bientôt, bonne sieste.
Merci.
Le train qui file, aussi vite que le temps, me mènera-t-il à temps, près de lui qui se meurt, qui s'en va vers son trépas, a déjà fait le pas, qui depuis si longtemps, hésitait en mourant, le souvenir demeure, de ce train qui se presse, ramenant immobile, mon reflet dans les champs, qui plus figé que moi, que ce jour se levant, qui plus triste que moi, le pays indifférent. Je revois qui s'allonge, le soleil sur le quai, qui s'allonge et qui grêle, les ombres empressées. Je revois qui tombe en gouttes, les larmes familières, empêchant coûte que coûte tout autre commentaire. Il est là-bas l'instant, entre ici et au cerf, enfilant la campagne où j'ai perdu mon père.
Bastien Lallemand qui sera présent et qui vient de quitter notre studio. Il sera présent bien sûr tout à l'heure à 15h en direct pour les siestes littéraires avec ses camarades. Ce sont des instants toujours très précieux et importants à vivre si vous avez l'opportunité évidemment de les vivre pendant les correspondances de Manosque. Nous a rejoint ici même Anne Maldan du Bruit qui court de la MJC de Manosque. Bonjour Anne.
Bonjour.
Une actrice culturelle manosquine puisque vous êtes à demeure à Manosque à la MJC.
Oui.
On peut rappeler l'action du Bruit qui court.
Alors le Bruit qui court, ça couvre tout ce qui est sensibilisation et découverte autour du spectacle vivant, du cinéma, voilà, de toutes les formes d'expression, on va dire, large.
Le théâtre et surtout pour les jeunes enfants.
Voilà, plutôt en direction du jeune public.
Jeune public, c'est une association qui a pignon sur rue à Manosque et qui a déjà quelques années.
Alors, c'est plus une association, ça a été créé en association, mais maintenant, ça fait partie intégrante de la MJC.
Donc, c'est un service de la MJC.
Voilà, c'est un service ou secteur de la MJC.
Quel âge ?
Qui date de 91 et qui est à la MJC depuis 96.
22 ans donc d'existence, oui. Avec peut-être déjà, et oui, deux générations d'enfants qui sont déjà passés chez vous.
Ah oui, oui, oui.
En 22 ans, ça y est.
Oui, oui.
Les enfants à qui vous offrez des univers et vous ouvrez des univers particuliers où on les fait rêver, en fait.
Voilà, le principe, c'est de faire rêver aussi un petit peu. On croise, entre autres, pas mal d'actions avec Éclat de lire. C'est en fait, les enfants, ils sont très ouverts à la découverte. Et on part du principe qu'un enfant, au plus il voit, au plus il entend, au plus il s'enrichit. Voilà, c'est un peu le fondement de ces actions-là.
Avec une très belle action aussi en ce qui concerne le cinéma, ce sont les ciné-goûtés par exemple que vous faites.
Oui, alors là c'est vraiment un temps un peu particulier où à l'issue d'un film, donc on travaille en partenariat avec William Rentier du cinéma Le Lido. À l'issue d'un film, on se retrouve autour d'un goûter pour échanger, pour apprendre à se connaître, voilà, et c'est du lien entre les enfants et les adultes, entre les enfants, voilà.
Tout ça, c'est pendant l'année scolaire, entre guillemets, et l'année civile, mais pendant les correspondances, alors là, vous mettez votre créativité en œuvre, et cette année, vous avez créé un système un petit peu particulier qui porte ce doux nom d'imaginographe.
L'imaginographe, oui. Alors, depuis quelques années, donc, avec, entre autres, les correspondances, on cherche à mettre en place, dans la rue, dans l'espace public, une forme qui soit ni du théâtre, ni de l'animation, ni de l'atelier, mais qui est en même temps tout ça à la fois. Donc cette année, on est trois partenaires autour de ce projet. Il y a donc les correspondances, il y a Éclat de lire, et bien sûr la MJC, le Bruit qui court. Et cette année, donc, c'est l'imaginographe. Donc c'est un principe un peu de théâtre de rue, graphique et interactif, on va dire, pour résumer.
Comment ça se passe ? Le public est invité à visiter votre imaginographe ? Comment et où ça se passe surtout ?
Alors, ça se passe sur l'esplanade. Et le public est plutôt invité à faire travailler son imaginaire. À partir cette année, on a demandé à Lorny Carinck, donc la compagnie, de travailler sur l'alphabet, puisque c'est le thème aussi un peu de l'année sur Manosque. Donc le public a des lettres à sa disposition, des petites lettres, et il est donc invité et accompagné à créer un imaginaire à partir de ces lettres. Ensuite, cet imaginaire, par un principe de photographie, va rentrer et sera le décor de la photo.
On voilà, a compris que c'était un univers assez ludique, en fait, que oui, vous mettez en œuvre sur un support que tout le monde connaît, qui est l'alphabet. Ça s'adresse à tous les publics ?
Oh oui, tous les publics, vraiment. Et c'est vraiment le principe de ces animations aussi.
Il y a un côté interactif aussi, ou c'est uniquement soi-même et sa vision de l'alphabet ?
C'est soi-même, la vision de l'alphabet, de ce que peut représenter une lettre. Un V peut représenter un oiseau. Voilà, c'est un peu... On oublie que le V est un V. Voilà, c'est la règle.
Et comme le V de voilà, par exemple.
Voilà.
Anne, vous pouvez profiter, entre guillemets, des correspondances aussi quand on s'occupe de l'imaginographe, du bruit qui court, de la MJC, etc. Vous avez l'opportunité ou alors, comme nous, vous vivez des frustrations terribles?
Ah, je vis des frustrations terribles. C'est vrai que, bon, on est, voilà, on est pris dans sa propre organisation quand on est partenaire des correspondances et effectivement, il y a plein de choses qui nous échappent du coup.
Mais en même temps, vous connaissez bien Manosque, donc vous allez sur les places de la ville, vous essayez de voir un maximum de choses.
Oui, heureusement, on arrive quand même à s'échapper, à aller à la rencontre. Voilà, et étant donné que la MJC est aussi un lieu d'accueil fort des correspondances, c'est aussi un endroit où on croise du monde.
On va en profiter pour saluer votre complice au bruit qui court, Laetitia, qui est en train de bosser, elle,
voilà.
Et que vous allez rejoindre. Merci encore d'avoir été mon invité, Anne. On rappelle l'imaginographe, donc c'est sur l'esplanade de la MJC. Et il faut prendre un ticket. Comment ça se passe?
Des fois, il y a 2-3 minutes d'attente, mais pas plus. Le principe est assez rapide.
Les rames sont régulières.
Voilà,
donc n'hésitez pas. Ouais. Le métro à Manosque s'appelle l'imaginographe et il est à base d'alphabet et c'est monté par le bruit qui court.
Les correspondances et Éclat de lire.
J'ai oublié personne. Enfin, on a oublié personne.
Voilà, et on sera donc encore samedi toute la journée. Et dimanche aussi, on essaye de créer aussi un peu d'animation le dimanche sur Manosque.
C'est une bonne chose. La journée la plus triste des correspondances, voilà. Puisque c'est la fin des correspondances. Et donc là, il y aura un éclat de rire avec vos partenaires. Et c'est une bonne chose. Merci encore, Anne. Bonne journée.
Merci,
et à très bientôt. Retour en plateau pour cette émission spéciale des correspondances. Nous sommes en compagnie de François Maton. Bonjour François.
Bonjour.
Un écrivain qui a été en résidence à Manosque, un écrivain très prolixe et qui a produit beaucoup de choses. On va voir ça avec lui. Votre univers s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, qui sont des vieux enfants, il faut le rappeler.
Exactement. Oui.
Et vous écrivez.
C'est même un travail qui vise à réveiller l'enfance chez les adultes que nous sommes. Et c'est pas toujours facile.
Combien de temps est-ce que vous avez passé à Manosque dans le cadre de cette résidence?
Oh, un petit peu plus de 2 mois. Mais je suis rentré à Paris, parce que j'habite Paris, et j'ai continué à travailler et à faire des dessins en pensant à Manosque et à écrire des textes. Donc ça s'est prolongé un petit peu quand je suis rentré à Paris, ce qui est une expérience assez intéressante de travailler à partir d'un lieu qu'on vient de quitter sans y être réellement.
Vous avez utilisé également les réseaux sociaux, Internet?
Oui, un peu, parce que j'ai un blog qui marche assez bien, qui est assez vu. Et les réseaux sociaux, pas plus que ça. Je fais vraiment le minimum, quoi, pour être un peu présent, mais je me fais toujours le reproche de pas donner assez de temps aux autres, en fait, parce que tout le monde réclame de l'attention, c'est un peu la folie.
Vous avez été présent quand même sur pas mal d'opérations, vous avez rencontré le comité de lecture, vous avez participé, oui, ici même à une émission avec nos amis du comité de lecture, les Petits Éclats de Lire, je crois, ou Les Lecteurs sous les Toits, je ne sais plus si c'est l'émission adulte ou enfant. Vous avez participé à des rencontres, notamment à l'URSS où on s'est rencontrés. Vous avez croisé pas mal d'énergie locale.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, c'est une bonne chose, je crois. Et ça s'est bien passé. C'était toujours sympathique et... Non, très, très bien. Et je suis pas sûr que, à Paris, vous voyez, dans un autre contexte, les rencontres auraient été aussi chaleureuses et simples qu'elles ont été là.
C'est-à-dire que le cadre de la ville de Manosque, de la Provence, joue dans ce...
Oh, sûrement, sûrement. Tout joue sur nous, hein, c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs, mais la lumière, l'espace, la qualité de l'air, toutes ces choses-là ont une influence directe sur notre rythme, notre façon de parler, notre rapport aux autres. Hein, et...
Ce que je n'ai pas signalé pour François Maton, c'est que en plus d'écrire aussi bien pour la jeunesse que pour... pas la vieillesse, mais l'âge intermédiaire entre les deux, voire un petit peu la vieillesse. Vous dessinez aussi beaucoup et vous avez un sacré coup de crayon, François.
Oui.
Le dessin, c'est justement une manière de compléter le mot.
De compléter le mot, parfois. Mais parfois, c'est une occasion d'arriver au mot par un autre chemin que celui des lettres, justement, ou du discours, ou de la littérature en général. C'est une façon d'aborder l'écriture par un autre biais que le texte seul. J'ai toujours l'impression, si vous voulez, qu'on est noyé dans un permanent discours intérieur. Et donc, les mots pèsent sur nous lourdement parce qu'il y a constamment en arrière-plan de tout ce qu'on fait, un commentaire. Et on se noie vite là-dedans. Alors, le dessin a l'avantage d'être immédiat, d'être simple et de sortir du mot, de pousser l'observation sur quelque chose de très direct. Et après ce petit détour, les mots me semblent rafraîchis, si vous voulez.
C'est un petit peu comme un dessin de presse, un article de presse, c'est la même chose. Le dessin, parfois, va peut-être plus rapidement à l'essentiel.
Oui, 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 ben oui. Mm-hmm. C'est vrai. Même si dans mon cas, il se suffit pas à lui-même. Parce que je fais des dessins qui sont surtout des dessins d'observation de petites choses au quotidien, des petites choses qui nous entourent. Et en l'état seul, ça suffirait pas. Il faudrait, il faut toujours que je fasse dialoguer dessin et texte. À ce moment-là, il y a un champ, si vous voulez, qui s'ouvre, un champ poétique ou un champ qui s'ouvre entre le dessin et le texte, même si le texte est parfois très très bref. Et c'est cet espace-là que j'essaie de travailler, de la relation singulière entre des dessins et des textes, qui ne soit pas une relation du coup d'illustration, si vous voulez.
L'un des fruits de votre résidence ici à Manosque, ce sont les cartes postales qui ont été éditées par les correspondances et qui sont maintenant largement diffusées. Je vais vous en décrire quelques-unes. Il y en a une qui est magnifique où il y a un dessin avec des petites taches d'aquarelle intéressantes. Un personnage qui est en train de brailler un peu fort et qui dit « Ramène-moi à Manosque ». Je dis bien « Ramène-moi à Manosque ». Ça n'a rien à voir avec un parfum célèbre et une campagne publicitaire. Donc là, il y a aussi beaucoup d'humour. L'humour, c'est présent chez François Maton, beaucoup. Il y a également une espèce de ville qui survole un univers un peu vaporeux et avec un clocher qui ressemble étrangement à celui de Saint-Sauveur qu'on aperçoit à travers la fenêtre ici. C'est Manosque céleste. Et puis, comme ça, on a aussi une très belle impression avec... quelque chose qui sort du feu quelque part avec une soudaine envolée. Évidemment, c'est le fantôme de Giono, très présent à Manosque. Vous connaissiez Jean Giono et vous avez apprécié un petit peu cet univers en venant à Manosque ?
Bah en fait, non. En fait, je connaissais... J'avais jamais... Bien sûr que je connaissais Jean Giono, mais je l'avais pas lu, étrangement. Il y a comme ça des drôles d'impasses. Et j'ai pas eu l'occasion de lire plus que ça, Giono, de le découvrir. Ça aurait pu être l'occasion. Mais non, je suis toujours pas rentré dans cet univers. Mais je sais qu'il m'attend, donc...
Et c'est un univers qui est patient aussi, donc oui, voilà, il faut prendre le temps de pénétrer chez Giono, aussi bien au centre Giono qu'à sa maison d'écrivain, au Paraïs. Tout à l'heure, je recevais à l'instant Bastien Lallemand, qui est un lecteur fervent de Giono, ah oui, et un merveilleux musicien et chanteur. Giono qui l'a marqué profondément. Il ne faut pas survoler Giono, surtout pas. Oui. Il faut vraiment aller au fond des choses, et puis j'espère que ça va, que ça se fera, quand ça se fera avec François Maton, voilà. Il faut prendre son temps.
Exactement.
Et il faut vraiment respecter tout ça. Qu'est-ce que vous allez garder, François, de cette résidence ici à Manosque ?
Bah écoutez, des petites choses, des petites impressions fugaces, c'est avec ça que je travaille, et je vois que c'est ce qui se dépose en moi, plutôt des choses infimes, des fragments, voilà, qui s'associent très librement en moi. Et oui, je vois que je n'ai pas d'impression globale, générale, de surplomb, vous voyez. Et ça me déplaît pas, justement. Et c'est un petit peu dans cet esprit-là que j'ai réalisé l'exposition qui est présente à l'Hôtel Volant, de dessins qui se veulent une représentation de la ville, de Manosque, sur le mode infra-ordinaire. Et le terme d'infraordinaire est emprunté à Pérec, qui disait qu'au quotidien, on avait un regard sur le monde qui était un peu dicté par les médias, la presse, l'actualité. C'était une chose, mais il était important aussi de voir parallèlement à ça la vie qu'on a tendance à négliger, qui est beaucoup plus simple en fait, qui n'a rien d'événementiel, mais qui est très importante dès lors qu'on prend le temps de l'observer. Ouais.
Alors, vous avez pris aussi le temps d'observer des choses étranges à Manosque, et j'ai souvenir d'avoir lu quelque chose d'intéressant sur votre blog et de particulièrement frappant sur un pigeon.
Oui.
Expliquez-nous, ce pigeon a fait le tour de Manosque, vous le savez.
Ah
hein,
bon ?
Vous le savez, l'office de tourisme en a beaucoup parlé. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce pigeon que vous voyez de votre fenêtre, c'est
oui,
ça ?
Oui, exactement. Oui, oui. Bah, c'était à l'Hôtel Volant. La chose qui m'a le plus frappé, parce qu'il y a cette grande cour que vous connaissez, et sur la façade des murs assez haut perché, il y a des vestiges de fenêtres qui sont occultées, et les pigeons très nombreux dans la ville font tout un cinéma. On sait pas. Au départ, je me demandais vraiment ce qu'ils bricolaient là-dedans, s'ils préparaient un petit nid, ou ils s'accouplaient, je ne sais quoi. Ils frottent leurs ailes constamment. Mais ça n'a pas de sens, c'est assez curieux. Et donc, c'est un déploiement de gestes qui sont assez disgracieux, je trouve. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Et on a toujours l'impression qu'il s'épouille aussi. Et donc, alors là, je l'ai observé précisément un oiseau pour voir ce qu'il faisait de sa journée, quoi. Et en fait, il restait là, un peu cloîtré, malheureux, sûrement déprimé. J'ai eu cette impression que c'était l'oiseau le plus triste du monde, et qu'il était en effet là sous mes fenêtres. Et alors, il avait la particularité sordide de se percher sur ses fientes. En fait, il doit chier comme ça régulièrement, et ça se fossilise un peu.
Ça fait
une petite montagne, et il se trouve juché sur. Je trouve ça quand même assez terrible. Et donc, je l'ai dessiné, oui.
Et ça fait le tour, je vous le dis, de Manos, qui en même temps, ça nous donne un regard, nous, sur notre, oui, sur notre ville et sur notre univers, qu'on ne voit pas forcément. Donc vous nous éclairez aussi à ce niveau-là, et c'est pas mal, quoi. Mm-hmm. C'est intéressant. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu trop de pigeons, il y a peut-être un petit peu trop de fientes de pigeons, surtout à Manos, mais en tout cas, cette observation, elle est utile, et elle servira beaucoup de choses. En termes de littérature et d'écrit, vous avez aussi produit sur votre résidence,
oui,
et vous allez produire encore.
Il y a des chances, oui, que je poursuive un travail que j'ai amorcé là. J'ai donc concrètement réalisé 10 textes, écrit 10 textes qui ont donné naissance à 10 affiches. Donc il y a un tirage format assez grand, enfin un petit peu plus que format raisin, et donc ces affiches ont été collées avant-hier soir, on les a collées sur quelques murs, c'est dispersé, et donc c'est proposé aux passants de Manosque à l'occasion du festival.
Ce sont des dessins, des phrases ?
Ce sont des textes, et là je peux en...
Alors, je vais traduire pour nos auditeurs. Allez-y, François. Il est en train d'ouvrir une de ses belles affiches. Estampillée, évidemment, correspondance de Manosque. Alors,
vous voyez, là, c'est essentiellement un texte.
Et c'est un exercice de poésie pratique.
Poésie pratique, voilà. C'est 10 exercices de poésie pratique.
Vous pouvez en faire lecture éventuellement,
oui, parce que l'idée c'était que la poésie est évidemment en littérature une chose importante, mais l'expérience poétique au quotidien est une chose encore plus importante et plus essentielle. Et si on n'était pas ouvert à la possibilité d'une expérience intérieure poétique, on aurait du mal à, j'imagine, à apprécier la poésie chez les poètes. Et donc, j'ai essayé de proposer des exercices pratiques, rapides, concrets, qui favorisent justement une ouverture à l'expérience poétique. Alors voilà, je vous lis ce texte. Donc, c'est l'exercice de poésie pratique numéro 5. Alors, ça commence comme ça. « Vous n'en pouvez plus d'être vous. » Vous en avez plus qu'assez d'être limité, de n'être que ça. Vous voulez passer la vitesse supérieure? Très bien, nous avons la solution. Commencez par fermer les yeux. Calmez-vous, prenez votre temps. Au bout d'un moment, une fois le calme établi, essayez de saisir ce que vous êtes là, en cet instant. Pas facile, n'est-ce pas? Et pour cause, voyez que lorsque vous êtes calme, vous n'êtes personne en particulier. Êtes-vous un homme, une femme? Vous sentez-vous une mère, une infirmière, une avocate? Un joueur de baseball, un Marocain, un Vietnamien, un homme quelconque? Avez-vous un sexe, vraiment, une histoire? Voyez que toutes ces informations flottent et se bousculent au sein de la totalité que vous êtes. Aucune d'elles n'est vous, vous n'êtes réductible à aucune d'elles. En réalité, vous êtes infiniment malléable, joué de cette plasticité. Soyez un instant un animal, un chat, un singe facétieux, un koala, un porc affamé, un vieil éléphant fatigué, une girafe élancée, un bison, une araignée. Mettez-vous dans la peau de chaque animal, de chaque insecte. Observez tout le plaisir qu'il y a à se glisser d'un corps à l'autre, tantôt couvert de poils, tantôt de plumes ou d'écailles, parfois minuscules ou parfois très grands. Voyez que rien ne vous oblige à n'être qu'un. Essayez alors d'être plusieurs simultanément. Soyez tout à la fois un arbre et un lion, un chat et une maison, un ours et un tracteur. Votre identité s'assouplit formidablement. Bientôt, vous vous sentez pouvoir être l'univers entier. Soyez-le vraiment. Ensuite, ouvrez les yeux et regardez le dessin que vous avez fait de vous tout à l'heure, vous perçu de l'extérieur. Riez de bon cœur de la folle méprise. Ce rire est celui du poète.
Un très beau texte, et puis quelques illustrations aussi sur ce texte, avec une tête de girafe, avec un château, et puis un homme allongé qui se regarde.
Exactement.
C'est presque un texte qui est digne d'un séminaire de communication d'entreprise. Hein.
Ah, il y a quelque chose. Il y a un peu de ça, oui.
Donc ça peut être intéressant. Et vous en avez produit plusieurs, donc, puisque c'est l'exercice numéro 5, il y en a déjà au moins 4 autres.
Voilà, non, il y a une dizaine pour l'instant de ces textes affichés ici et là, et pas forcément directement branchés sur le parcours du festival, un petit peu en marge justement pour... que les gens soient pas trop attroupés, qu'ils puissent vivre, enfin, se prêter en tout cas à cette expérience sérieusement dans de bonnes conditions.
Alors, ce sont des textes, on l'a vu, on l'a entendu, basés sur des réflexions, très souvent. Vous avez aussi une approche plutôt du romancier, avec une fiction, avec un texte plus, une histoire plus complète, des personnages complexes. Vous avez ça aussi dans votre univers, François ?
Ah non, j'ai pas ça et je me garde bien d'avoir ça justement, figurez-vous, parce que non, je suis pas romancier, c'est certain. J'aurais du mal à faire naître des personnages inventés de toutes pièces, mais surtout en fait, j'ai l'impression que si vous voulez, les histoires, par la force des choses, on est tout le temps plongé dedans, à titre personnel. Alors, en raconter d'autres, j'aurais l'impression que ça serait une façon un petit peu de nourrir ce qui est déjà un penchant qui est souvent épuisant pour nous. Et donc, j'essaie de faire des choses, d'écrire des textes et de réaliser des livres qui, bon, certains sont un peu narratifs, j'exagère un peu, mais qui proposent autre chose qu'une histoire et des personnages, voilà, plutôt des invitations diverses à apporter un regard un petit peu différent sur le monde.
Pourtant, les histoires nous font rêver. Si je vous dis oui. Les Misérables, Les Trois Mousquetaires, Moby Dick, enfin, forcément, oui, oui. Il y a des univers là qui se dégagent.
Tout à fait.
Et ça vous attire pas pour l'instant?
Si, bien sûr, j'ai lu beaucoup de romans, mais j'étais adolescent, j'ai lu beaucoup Dostoïevski, j'ai lu Tolstoï, je vous cite les Russes, mais bien d'autres, j'adore Flaubert, mais je vois que c'est quelque chose qui m'attire moins, qui m'est moins nécessaire aujourd'hui. Bon, bien sûr, j'éprouverai du plaisir, le plaisir du texte, comme dirait Roland Barthes, et ça, il est toujours là. Je crois qu'il faut pas bouder son plaisir. Mais je pense que des textes qui se passent d'histoire me nourrissent davantage. Par exemple, comme je ne sais pas si vous avez lu, il sera là sur le festival. Quel est son prénom ? Claire, intérieur.
Thomas Claire.
Thomas Claire, voilà. Et oui, Thomas Claire. Et cette expérience-là, dans son roman, enfin roman, dans son texte, son gros livre de description de son appartement, je trouve ça absolument fascinant et très, très, très motivant, très stimulant.
On est là dans un voyage intérieur, voilà. Qui va bien plus loin que son simple nombril. Hein. C'est quelque chose.
Oui.
Je n'ai pas encore lu son ouvrage, mais effectivement, tous les gens qui m'en ont parlé ont été séduits par ce voyage intérieur très, très spécial. Vous-même, vos influences en littérature, en écriture, à part les personnes que vous avez citées, Barthes, Pérec.
Oui, Ponge, un peu proche de Pérec dans mon esprit, c'est-à-dire ce sont des poètes qui accordent une attention particulière aux objets, à la présence des objets, des choses, et des choses modestes, une pomme de pin, un savon, et ce sont des poètes qui m'ont vraiment marqué parce qu'ils m'ont incité à voir et à ressentir la vie propre des objets et le silence propre de l'objet. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un regard un peu pauvre sur les choses qui nous entourent. Vous voyez un micro, je voyais uniquement l'aspect utilitaire de la chose. Et ces poètes décrivant, par exemple, un verre d'eau m'ont amené à le considérer pleinement, autrement que du point de vue utilitaire.
Les objets ont une âme, donc.
Exactement. Alors ça, j'y crois absolument, oui.
François, un dernier mot sur les fréquentations, entre guillemets, que vous avez eues, notamment ici, pendant les correspondances de Manosque. Je pense à tous ces doudingues que vous avez fréquentés, des comités de lecture, oui. Ces personnes dont ce n'est pas ni le métier, ni la vocation, et qui adorent la littérature, qui adorent croiser des écrivains et discuter avec eux de leurs choix, parfois même s'affronter avec eux. Qu'est-ce que vous pensez de ces démarches ?
Ah, ils sont formidables, en effet. Oui, plein de passion et c'était une rencontre tout à fait chouette, très, comme je vous ai dit, très 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 simple et très vivante. Et en effet, on n'a pas hésité à échanger des points de vue parfois différents, justement sur le comment considérer le roman, etc. Donc non, c'était très 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 chouette.
Manosque, une étape dans votre carrière ?
Ah, mais oui. Oui.
On va rester sur cette belle phrase. Merci encore, François Maton, d'avoir été mon
Merci
invité.
À vous.
Et vous êtes encore présent quelques jours à Manosque pendant les correspondances. Il y a une rencontre qui est prévue en public avec vous-même
Non, ou alors toute petite. Cet après-midi, j'ai participé à une sieste littéraire, c'est ça?
Oui.
C'est une formule assez particulière. Alors, je sais pas, j'ai
avec
jamais.
Avec nos amis qui vous ont précédé, vous
D'accord.
allez voir. Donc,
Là, je vais lire un petit texte à cette occasion. Oui.
Très bien. Donc, c'est dans la petite salle de Jean Le Bleu, en bas, avec notamment Bastien Lallemand, J.P. Nataf, Claire Diterzy et Maëva Lebert. Vous ne serez pas déçus. Et il faut effectivement apporter son petit oreiller avec soi, hein, mais
D'accord.
un oreiller littéraire pour ce qui vous concerne. Hein.
Tout à fait.
Merci encore François Maton. Mais justement, on va terminer peut-être en écoutant Claire Diterzy qui sera présente à la sieste littéraire et que j'aurai le plaisir d'interviewer demain dans notre troisième émission sur les correspondances. Je vais en profiter aussi pour remercier Meya à la régie qui a assuré la régie un peu difficile avec nos invités qui viennent un peu à l'improviste et en même temps c'est une bonne chose, pourquoi pas. Il ne faut pas que les choses soient trop dirigistes, n'est-ce pas François? Il faut que ce soit un petit peu souple aussi.
Ah
hein.
Oui, exactement.
Il faut qu'on reste un peu humain dans nos rapports. On va signaler votre blog aussi, François, juste avant qu'on se quitte, si on veut retrouver ce personnage étonnant, François Maton, ses pigeons et le reste. Votre blog, c'est...
Alors, je me souviens pas, je me souviens jamais de l'adresse précisément, mais bon, il suffit de taper François Maton
avec deux T.
Et c'est oui, moi, il est hébergé chez Overblog, il me semble, voilà.
Et allez faire une visite sur son blog, vous ne serez pas déçus. Merci encore François Maton, bonne correspondance de Manosque et puis bonne suite évidemment pour le reste. Merci aussi Meya, on termine avec Claire Diterzy.
Claire Diterzy avec le titre Sombre Dimanche.
À demain, on en parlera justement de Sombre Dimanche.
À demain François.
Sombre. heures.